SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 16 avril 2022. En Australie, le Parti travailliste s'engage à instaurer une commission fédérale anti-corruption. En Ukraine, après avoir perdu l'un de leurs navires au large d'Odessa, les Russes intensifient leurs offensives. Enfin, à Shanghai, en Chine, le ras-le-bol de la population soumise depuis 15 jours à un confinement drastique. Malgré la trêve pascale, la campagne électorale en Australie continue ce week-end. Ce matin, les travaillistes se sont ainsi engagés, s'ils sont élus en mai prochain, à mettre en place une commission fédérale sur l'intégrité des élus. Scott Morrison, qui avait promis de le faire avant d'être réélu en 2019, n'a finalement pas créé une telle commission. Le travailliste Jason Clare a précisé à la chaîne ABC que la commission qu'il souhaite mettre en place tiendra des audiences publiques.
I think most Australians would think if a royal commission can hold public hearings, so should an anti-corruption commission investigating corrupt politicians. An anti-corruption commission also needs to be able to commence its own investigations. Under the model that Scott Morrison was proposing, it can only commence an investigation if it's ticked off by cabinet. Now, that's the sort of thing you'd expect in some sort of authoritarian regime overseas. If you don't think corruption is real in Canberra, you're not looking for it.
De son côté, le Premier ministre Scott Morrison était aujourd'hui en déplacement de campagne à Melbourne, où il a été assailli de questions à propos de la candidate libérale qu'il a imposée dans la circonscription de Warringah, Catherine Daves. Cette dernière s'est plusieurs fois opposée publiquement à la participation d'athlètes transgenres à des compétitions féminines. Elle est même allée jusqu'à comparer ce combat à la résistance contre l'Holocauste. Des propos bien évidemment dénoncés et à propos desquels elle a depuis multiplié les excuses, mais pour le trésorier de Nouvelle-Galles du Sud, Matt Kean, également membre du Parti libéral, le mal est déjà fait et il appelle son parti à retirer son soutien dans le cadre de ses prochaines élections fédérales à donc Catherine Daves. Un avis qui n'est pas partagé par Scott Morrison.
I don't share Matt's view. I share Tony Abbott's view. I'm not joining that pile-on. And she has learned from her experiences about how she's sought to deal with this issue in the past. And I have no doubt that she'll pursue these issues in a more sensitive way and more respectful way in the future.
Un mot maintenant sur le Covid avec la détection d'un nouveau sous-variant dans les eaux usées de l'État du Victoria près de Tullamarine au nord de Melbourne. Ce sous-variant issu de la souche Omicron n'était jusqu'à présent jamais apparu en Australie. En revanche, un petit nombre de cas a été recensé dans divers pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana, mais aussi la Belgique, le Danemark, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. L'OMS, note pour sa part qu'à l'heure actuelle, il y a peu de différence entre ce nouveau sous-variant et le variant Omicron. Au lendemain du naufrage du navire Moskva au large d'Odessa, les Russes ont bombardé une usine d'armement située dans la banlieue de Kiev. En parallèle, le siège de Mariupol, entamé il y a maintenant plus d'un mois, se poursuit et maintient une pression forte sur les habitants, à tel point d'ailleurs que ceux-ci ne savent plus où enterrer leurs morts. On écoute à ce sujet le reportage d'Anissa El-Jabri, envoyée spéciale de RFI à Mariupol.
C'est le dernier de cette allée pavillonnaire à rester dans ce quartier à 1 km des derniers combats autour de l'usine Azovstal. Autour de cet homme, les maisons vides de ses voisins et leurs chiens qui hurlent à chaque tir. Dans son jardin, le corps de sa mère.
Le 9 mars, ma mère est décédée à l'âge de 82 ans. Lorsqu'ils ont coupé l'électricité et le gaz, la température est tombée à 1 degré. Elle est simplement morte de froid. Je l'ai enterrée dans le jardin à cause des bombardements constants. Quand nous creusions sa tombe, des obus passaient au-dessus de nos têtes. J'ai été aidé par le parrain de mon fils et un ami. À nous trois, cela nous a pris 2 heures. Je l'ai enroulé dans des draps et des couvertures pour pouvoir l'exhumer plus tard. Et je l'ai recouverte de vieilles grilles en métal pour que les chiens ne la déterrent pas. Parce que je ne pouvais pas l'enterrer très profondément sous les décombres.
Cet homme n'attend qu'une chose, pouvoir enterrer sa mère dans un cimetière. D'autres comme lui à Mariupol, en attendant, se rendent à l'église la plus proche, déposent de petits papiers devant une bougie ou de l'encens. C'est Alexander qui en prend soin.
Ici, il est écrit Vacheslav, récemment décédé, décédé des suites d'une maladie. Jetons un coup d'œil au suivant. Maria, récemment décédé et décédé des suites d'une maladie. Dimitri Pushkajov, récemment décédé, décédé des suites d'une maladie. 9h40, tué Constantine, nouvellement parti. Nous ne procédons pas à des enterrements ici. Le service est pour les âmes des morts ou tués.
Pas assez de médicaments qui arrivent ou combat entre les morts et ceux qui ont quitté la ville. La cité portuaire noircie en ruine ressemble de plus en plus à une ville fantôme. Anicel Jabri, Mariupol, RFI.
L'étendue des horreurs commises à Boutcha, cette petite ville en banlieue de Kiev, est chaque jour un peu plus apparente. La police ukrainienne a ainsi révélé que plus de 900 cadavres avaient été retrouvés après le retrait des troupes russes. Pour le chef de la police régionale, Andriy Nebitov, il n'y a aucun doute, ces gens ont tous été tués par l'armée russe.
I want to say that the number of killed civilians has surpassed 900. And I emphasize, these are civilians whose bodies we've discovered and handed over for forensic examination. This is more than 900 people currently killed at the hands of the Russian army.
De son côté, l'ONU estime désormais que plus de 5 millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur foyer pour fuir les combats. Les combats, ils se mènent également sur la scène diplomatique entre Washington et Pékin, puisque le chef de la CIA américaine a accusé la Chine d'être le partenaire silencieux de Vladimir Poutine dans cette guerre menée en Ukraine. William Burns reconnaît par ailleurs que la Chine vise désormais clairement à supplanter les États-Unis en tant que première puissance mondiale. Écoutez-le.
A silent partner in Putin's aggression, Xi Jinping's China is our greatest challenge, in many ways the most profound test that CIA has ever faced. The People's Republic of China is a formidable competitor, lacking in neither ambition nor capability. It seeks to overtake us in literally every domain, from economic strength to military power and from space to cyberspace. Its rise has been remarkable.
Face au coronavirus, la Chine est l'un des derniers pays au monde à maintenir une stratégie zéro Covid, une approche qui se traduit notamment par le confinement strict des 25 millions d'habitants de Shanghai depuis maintenant 15 jours, une situation de plus en plus invivable pour les habitants de cette ville. Le correspondant de RFI à Pékin, Stéphane Lagarde, a pu le constater en prenant contact avec des Français vivant dans la capitale économique chinoise.
Pour moi, c'est un peu comme une scène de guerre, quoi, où il y a un couvre-feu.
Une ville sous couvre-feu, voilà l'image que Marc emporte de Shanghai en prenant le vol d'Air France pour Paris ce soir. 8 ans que ce musicien vit dans l'une des mégalopoles les plus animées de Chine, qu'il ne reconnaît plus depuis sa mise sous cloche. Avec la peur, non pas du virus, mais d'être envoyé en centre de quarantaine collective. Benjamin, négociant en vain.
Personnellement, j'avais préparé ma valise pour partir dans les centres de quarantaine. C'est même pire qu'un prisonnier, en fait, parce qu'un prisonnier, on a des droits. Là, clairement, on n'a aucun droit.
Depuis quelques jours, la vidéo des Misérables tourne sur les groupes WeChat des Français de Chine, se lever et dire non aux restrictions. Chacun a ses raisons de partir. Mais pour Marc, c'est un mouvement de fond.
Au fil du temps, ils se rendent compte que c'est de plus en plus compliqué de rentrer en France en étant sûr de pouvoir revenir en Chine. Donc il y a une grosse vague de familles étrangères qui vont partir.
Le confinement qui accélère les choses. La résidence d'Élise n'a pas enregistré de cas positifs depuis 14 jours. Cette mère de 4 enfants est soulagée. Elle a pu embarquer.
Nous, en fait, on n'en peut plus de scanner des QR codes partout, montrer des papiers. Ça vous épuise. Nous, je pense que il y a une annonce dans l'aéroport. Je pense que ces deux années, en fait, nous ont épuisé en partie notre capital expatriation. C'est un ressenti 5 ans, 6 ans, quoi.
Shanghai coupé du monde, ce vendredi, seul Hong Kong, Paris et Helsinki étaient sur le panneau des départs. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
On prend maintenant la direction de l'Afrique du Sud après des inondations catastrophiques qui ont frappé la province du KwaZulu-Natal. On estime que ces inondations auraient fait près de 400 victimes et par ailleurs, des dizaines de milliers d'autres personnes sont désormais sans abri. Une catastrophe qui s'est abattue hier, le jour du Vendredi Saint, un événement religieux très suivi en Afrique du Sud. Raymond Perry, qui dirige une organisation caritative chrétienne, estime que même dans l'adversité, il faut garder espoir.
So many reasons to lose hope, to be despairing at this time. And the Christian message is that even in the face of darkness, there is light. Even in the face of despair, there is hope.
Et on reste en Afrique pour évoquer cet accord annoncé jeudi, entre la Grande-Bretagne et le Rwanda à propos des migrants. Cet accord qui s'inspire du modèle australien et de ses centres de détention offshore consiste pour l'Angleterre à envoyer ses réfugiés entrer illégalement sur son territoire au Rwanda, qui, en contrepartie, doit recevoir une aide financière de 144 millions d'euros. Ce programme est dénoncé par de nombreuses organisations des droits de l'homme, mais il fait également polémique au pays des Mille Collines. Les membres de l'opposition rwandaise estiment que le pays n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour accueillir ses réfugiés. Je vous propose d'écouter à ce sujet Victoire Engabir, le président des Forces démocratiques unifiées. Il s'est confié sur le sujet à RFI.
Nous pensons que les pays riches comme la Grande-Bretagne ne doivent pas transférer leurs obligations à des pays tiers comme le Rwanda juste parce qu'ils ont assez d'argent pour influencer et imposer leur volonté. Le Rwanda a déjà une population assez dense, il n'y a pas assez de terres pour tout le monde, il y a déjà des conflits fonciers et une compétition pour les ressources naturelles. Accueillir des migrants venant de Grande-Bretagne ne fera qu'accentuer encore plus ce problème de terres, va poser des défis au quotidien et risque de créer des conflits entre Rwandais et migrants. Nous avons déjà nos propres problèmes que nous devons résoudre. La jeunesse, par exemple, qui essaye de survivre sans travail. Le problème du chômage s'est empiré avec l'épidémie de Covid et envoyer des migrants ici ne va qu'exacerber ce problème. Nous pensons que le Rwanda, qui va accueillir le sommet du Commonwealth dans quelques mois, a voulu faire plaisir au Royaume-Uni. Mais les Rwandais, eux, n'ont rien à gagner de cet accord.
On prend la direction de la France où hier, Emmanuel Macron s'est rendu sur le site de Notre-Dame de Paris 3 ans, jour pour jour, après l'incendie qui a ravagé non seulement son toit, mais également détruit sa flèche. Les travaux de reconstruction doivent être achevés en 2024 à l'occasion des prochains Jeux Olympiques. Par ailleurs, nous sommes désormais à J-8 du second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, au fil de leurs déplacements respectifs, se rendent coup pour coup. Et de son côté, la gauche et ses différentes composantes se projettent déjà sur les élections législatives. Elles se tiendront au mois de juin. Et si toutes les formations politiques conviennent d'un nécessaire rapprochement pour peser dans le prochain quinquennat, les divergences persistent au sein de la gauche française et ces divergences restent effectivement très importantes. On fait le point là-dessus avec Aurélien Devernoy pour RFI.
150 députés de gauche, c'est possible. Voilà déjà un point d'accord entre insoumis, écologistes, communistes et socialistes. Le problème, c'est comment atteindre cet objectif. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est simple, une alliance où chacun se verra accorder des circonscriptions au prorata de son poids électoral à la présidentielle, c'est-à-dire beaucoup pour son parti et pas grand-chose pour les autres. Une alliance, pourquoi pas, répond le patron des Verts, Julien Bayou, mais pas à ces conditions. Les écologistes veulent que soient pris en compte leurs résultats aux élections municipales et régionales, qui leur avaient été nettement plus favorables. Une excellente idée, selon les socialistes, qui ont le plus grand nombre d'élus au niveau national, sauf que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler du PS, qui l'a durement critiqué pendant la campagne présidentielle. Alors dans les états-majors, on imagine déjà un double système. Les insoumis travailleraient avec les écologistes et les communistes, qui passeraient de leur côté des accords avec les socialistes, un pacte de non-agression pour ménager tous les partis, mais surtout pour ne pas éloigner des électeurs toujours en demande d'union de la gauche.
Un petit mot pour finir sur la météo du jour. Grand soleil et 26 degrés à Perth, 30 degrés à Adelaide où il fait également très beau aujourd'hui, 27 degrés à Melbourne, 24 à Sydney. Quelques nuages en revanche dans le ciel de Brisbane avec 26 degrés et une maximale de 34 degrés à Darwin ce samedi où on peut s'attendre également à quelques orages.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.